institut at-tawhid. نعم. طيب. Donc on va commencer par le début, hein. À savoir, Hayakallah, Cheikh Ziyad, Hayakallah. À savoir, une chose très importante avant de commencer, on va pas le dire à chaque fois, mais on va le dire une fois, Inch'Allah. Nous, à notre niveau, on n'a pas le niveau du mufti. On n'a pas le niveau ni du mufti, ni du mujtahid. Mais l'étudiant en science, comme l'ont mentionné les savants, justement les mujtahidines, il a le droit de transmettre les fatwas des savants, les avis religieux, pardon, des savants. Ça fait partie de ses droits. Naham, pour aider la communauté, pour éclaircir certaines choses que lui connaît et que les autres ne connaissent pas. Que l'étudiant connaît, maîtrise et que d'autres ne connaissent pas. Ou alors l'étudiant, il a accès à des choses que les étudiants plus débutants ou alors la masse des gens n'ont pas accès à ces choses-là, les fatwas des savants, le détail, etc. Donc ça fait partie de l'entraide que l'étudiant partage les fatwas des savants, les avis religieux. Également, l'étudiant qui est capable, qui a un certain niveau, Afwan, l'étudiant qui a atteint un certain niveau, il a la capacité de distinguer entre les preuves. Donc, il est habilité, lorsqu'il a pris un avis, il est convaincu par un avis, il a habilité à transmettre cet avis. Si on lui pose une question, il a habilité à dire, voilà, il y a divergence, mais c'est ça. Et il n'est même pas obligé de citer la divergence. Il peut donner sa position. Si par exemple on lui pose la question, est-ce que le sital est obligatoire ou pas? Si c'est sa position, il a droit juste de dire, le sital est obligatoire, na'am, les dalil, les adillah, les preuves, na'am. Donc voilà, ce sont des petites malhomètres, des petites connaissances concernant les questions-réponses. Et ça ne s'arrête pas là, Inch'Allah, ta'ala, on aura l'occasion de vous donner plus ample, Inch'Allah, fawaïd sur les questions-réponses. Là, on en est à notre premier question-réponse, c'est un essai, on va voir comment ça se passe, etc. Alors. La première que j'ai ici, elles sont peut-être pas dans l'ordre, hein. La première que nous avons ici, alors c'était une étudiante qui nous demande sur un institut, apparemment c'est en anglais, est-ce que j'aimerais bien m'inscrire, mais je voudrais être sûr que ce sont des gens sur la Sunna, vu que les professeurs sont arabophones, je ne peux pas me renseigner. Personnellement, Allahu a'lam, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que. Apparemment, ça a l'air d'être l'université. Parce que EDU. SA. Wallahu a'lam, ça c'est l'université de d'Arabie. Mais le problème qui se pose, moi j'ai essayé de joindre, mais on ne peut pas joindre. On te demande juste de t'inscrire. Le problème qui se pose, c'est qu'il est possible pour des organismes de de se faire passer pour l'Arabie. De se faire passer. Et en fin de compte, c'est pas l'Arabie. Avec le logo, la photo de la Mecque, etc., etc. Et on croit. Et... Wallahu a'lam. Donc la réponse, c'est Allahu a'lam, je ne sais pas du tout. Maintenant, si vous avez un numéro de téléphone où on peut les joindre et leur demander, nous, on est prêt à les appeler pour vous, il n'y a pas de souci sur ça. Il n'y a pas de souci sur ça. Non. Donc désolé, Allah a'lam pour cet institut. Si vous avez plus d'infos sur l'institut, on est ouvert un numéro ou quoi que ce soit. Dans le cours de comportement, alors question d'une étudiante. Question d'une étudiante. Afouane. On va recommencer, je n'étais pas ici. On va commencer par là. On va commencer par là, c'était ici. Naam. Salam alaikum, wa alaikum salam. J'ai plusieurs petites questions. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous prendrez à lire ce message ainsi que le temps que vous y passerez à me répondre si cela est possible. Naam. C'est juste une question de temps, mais c'est toujours possible, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison qu'on ne réponde pas. J'aimerais savoir si les dessins animés pour enfants, les jouets, les tissus avec des yeux pour enfants sont autorisés, s'il y a plusieurs avis. Moi, je peux m'en passer, mais mon mari commence à prendre la religion petit à petit et pour lui, j'ai peur que ça fasse beaucoup d'un coup. Il m'en a déjà fait la remarque. J'aimerais aussi savoir si les dessins animés et les reportages, par exemple, contenant par moments des sons ou musique, sont interdits ou si cela ne l'est pas du fait que ce soit que sur certains passages et non voulu de notre part. Ma mère est dépressive, je dois rester souvent avec elle, mais souvent la télé veut mettre des dessins animés, mais il n'y a pas le, mais il y a du son, acheter des jouets avec des images, etc. Du coup, c'est difficile, etc. Aussi, j'aimerais savoir si les photos sont interdites complètement, s'il y a divergence, car encore une fois encore, j'arrive à m'en passer, mais pas la famille. Tayyib, tayyib, tayyib. Après, il y aura une deuxième question. On verra la deuxième question à la suite. D'abord, on va voir pour la première question. Alors, on a choisi pour répondre à cette question concernant, dans un premier temps, ça c'est dans un premier temps, on a la fatwa de Cheikh Farkus, Hafizahullah, sur les dessins animés. La question, fatwa numéro 298. Quel est le jugement concernant le fait de regarder les dessins animés? Cher Falkous, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. En effet, il est permis de voir les dessins animés, mais à condition qu'ils soient régis par les normes de la charia, telles que la bonne intention, à savoir qu'ils soient objectifs de sorte qu'ils réalisent des films, des fins, pardon, orienteuses, instructives et éducatives, et qu'ils ne contiennent ni les aspects de dépravation et de dévoilement, ni de la dévoilement, ils sont pas habillés ou ils n'ont pas le hijab, etc. Ni de la musique, ni de l'éducation incorrecte. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas manquer aux bienséances et aux convenances islamiques, comme ils doivent être dépourvus de tout appel au polythéisme ou à discréditer et dédaigner la religion, avec un style comique et des tournures médisantes, ou à éloigner les gens de la religion par le biais des messages qu'ils transmettent. Donc dans un premier temps, on a compris que les dessins animés des koufars, c'est exclu. Par ailleurs, ces dessins animés peuvent être recommandés si le message qu'ils contiennent traduit une éducation religieuse correcte. En outre, il est connu que les images avilies sont permises, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toute image, excepté celle qui est un signe sur un vêtement. Aussi, cela est prouvé par le hadith de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle jouait avec les poupées. Ibn Qudama a dit dans El Mourni, en parlant à propos du fait de répondre à l'invitation aux fêtes de mariage, et si l'on ôte la tête de l'image, il n'y aura pas de détestation. Aussi, si l'image représente un corps sans tête, ou une tête sans corps, ou représente une tête et tout le corps n'est pas celui d'un animal, ces cas-là ne sont pas concernés par l'interdiction, car de telles images ne sont pas considérées par une image animale. Fin de citation. Donc ça, c'est Naham, le premier éclaircissement. Deuxièmement, la question a été posée aux savants. Il existe quatre types de représentations photo. La représentation dessinée d'êtres animés avec relief. Cela est interdit par l'islam et il ne devrait pas y avoir de divergence à ce sujet. Car Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: ceux qui produisent des représentations d'êtres animés auront le jour de la résurrection le châtiment le plus douloureux. Bukhari wa Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit de lui et de son père, a rapporté que le prophète a.s. a dit: quiconque façonne la représentation d'un être animé sera châtié, on lui demandera de lui insuffler une âme le jour de la résurrection sans qu'il puisse y parvenir. Et quiconque écoute une conversation secrète entre les gens à leur insu se verra verser du plomb fondu dans les oreilles le jour de la résurrection. Ça fait partie du hadith, ça. Deuxièmement, la représentation dessinée, pardon, d'êtres animés sans relief, sans ombre. La majorité des savants est d'avis que cela est interdit. Donc, on comprend par là que dans la question de notre étudiante, il y a une divergence entre les savants. La photo, les dessins animés, les photos, vidéos, tout ça, il y a divergence entre les savants. Faut bien le savoir. Alors ici, on nous dit la majorité des savants est d'avis que cela est interdit, car c'est une forme de la représentation d'êtres animés qui tente d'imiter la création d'Allah, exalté soit-il. Afwan. Certains savants ont toutefois permis cette forme de représentation en s'appuyant sur le fait qu'elle ne fait pas partie des représentations auxquelles on peut demander à ce qu'elle leur soit insufflée une âme le jour de la résurrection. Cependant, l'avis correct reste celui de la majorité des savants. On vous enverra toutes ces preuves-là, on vous les enverra comme ça, vous pourrez les lire au repos. Troisièmement, les photos prises au moyen d'appareils photo et d'images vidéo. Il y a également divergence à ce sujet entre les savants. Certains les autorisent alors que d'autres les interdisent. Quant à nous, nous penchons pour le premier avis, tant que cela n'implique rien d'illicite, comme le fait de montrer une femme dévoilée ou de glorifier une personne. Si l'enregistrement ne contient rien d'interdit, il semblerait que cela soit permis. En effet, il n'y a aucune imitation de la création d'Allah dans cette forme de représentation. Au contraire, c'est une représentation de la création d'Allah, et cela est d'autant plus permis qu'il y a parfois un intérêt légitime à produire ce genre d'image, comme le fait de faire une carte d'identité ou de démontrer un droit, d'enregistrer une réunion scientifique ou autre. Donc là, on parle des photos, vidéos. Il y a une divergence, mais voilà, il y a plusieurs avis. L'avis qui est Wallahu a'lam le plus répandu, c'est que c'est permis. Wallahu a'lam, surtout dans ce qu'on appelle la darora. La darora, c'est personne ne peut s'empêcher de faire un passeport, une carte d'identité, etc. La photo est obligatoire, donc voilà, c'est une darora. Par contre, s'il n'existe aucun intérêt à produire ce genre d'image, le mieux est de ne pas le faire afin de tenir compte de la divergence entre savants et d'éviter les choses douteuses. Donc ça, c'est une règle chez les savants, c'est quand il y a divergence, il faut prendre ce qu'on appelle la précaution. Les savants, ils disent, c'est mieux de prendre la précaution et de sortir de la divergence. C'est bien pour ça que je vous donne un exemple. Cheikh Al-Albani, il a dit, c'est pas obligatoire le sitar, mais c'est préférable. Si tu veux sortir de la divergence, prendre la précaution que, voilà, la précaution, eh ben, tu choisis la position qu'il faut le mettre. Wallahu a'lam. Quatrièmement, la représentation d'objets inanimés comme les arbres, les pierres et les choses semblables, il est permis de représenter toutes ces choses dans l'absolu si Allah le veut. Prendre des photos avec l'appareil mentionné est permis. Est-ce que les photos soient stockées sur une carte mémoire ou non? Cela est l'avis d'un groupe des savants. Cela est l'avis d'un groupe des savants. On a par exemple Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, le mufti, qui dit, tu as droit d'avoir des photos dans ton portable. Si elles sont pas apparentes, un album dans ton portable, si elles sont pas apparentes, on les voit pas, c'est personnel. On nous dit que la licéité ou l'illicéité, le fait que ce soit halal, hein, d'un studio de photographie dépend de la licéité ou de l'illicéité, le fait que ce soit licite ou illicite, ça dépend des photos qui y sont comprises. Cependant, en observant les studios de photographie, nous constatons qu'ils ont les activités suivantes. Développer les négatifs de films. Il est bien connu que ces films contiennent des images illicites comme celles montrant des hommes ou des femmes nus ou presque nus. Or, il est interdit de développer des films qui contiennent de telles images. Par conséquent, l'argent tiré de ces activités est illicite. Filmer également, filmer les cérémonies de mariage et les fêtes et développer les films qui s'y rapportent. Or, il ne fait aucun doute que ce genre de film contient généralement des images de femmes dévoilées, parées ou montrant des parties de leur corps qu'elles ne doivent montrer qu'à leur mari. Ces femmes dévoilent parfois des parties de leur corps que même le mahram n'ont pas le droit de voir. Il est interdit de développer des films qui contiennent de telles images, car cela propage la débauche et la turpitude et aide à la répandre le mensonge et le mal. Filmer les festivals et musiques et d'autres événements de ce genre et développer les films qui s'y rapportent. Or, ces films sont rarement exempts de femmes dévoilées. De plus, celui qui filme de tels événements commet d'autres interdits, comme le fait d'écouter de la musique ou de regarder des gens danser. Donc, pour notre étudiante, il y a encore, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais Inch'Allah, là, on en voira, si vous voulez, dans les groupes, pour ceux que ça intéresse, tout le petit exposé. Il y avait une deuxième question de la même étudiante. Concernant les produits de beauté, alors la même chose, on a une fatwa de Cheikh Farkous ici. Le jugement concernant la vente des parfums et des produits de beauté. Il est répandu chez certains commerçants la vente des produits de beauté tels que le maquillage et les parfums pour femmes. Ces commerçants allèguent qui conseillent les clientes de ne pas utiliser les produits en dehors de leur maison. Est-ce que ce commerce est permis? Donc, ce n'était pas la question directe de l'étudiante, mais il y a la réponse dedans. Il est interdit de vendre des maquillages dont la composition industrielle est faite de base de fœtus humains, de résidus d'accouchement ou de détritus organiques des fœtus tels que le cordon ombilical, le placenta et autres. Vu que ceci est une violation de l'espèce humaine qui est interdite par les textes authentiques de la charia. Il est également interdit de vendre les maquillages dont la composition industrielle est faite à base de fœtus animal, comme le porc et les bêtes mortes. Étant donné leur impureté, de même, il est interdit de vendre les parfums contenant de l'alcool, enivrant, puisqu'il est connu qu'il n'est pas valable de vendre ce dont il est interdit de profiter, tels que le vin, le porc, les bêtes mortes et autres. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah et son messager ont interdit de vendre le vin, le porc, la bête morte et les idoles. Puis il dit qu'Allah combatte les Juifs car quand il leur a interdit ces graisses, celles de la bête morte, ils les ont transformées en huile, vendu le liquide et mangé son revenu. Alors on va un peu vite, vous nous excusez, c'est parce que comme il y a beaucoup de questions, sinon 1 heure ça ne nous suffira pas. Et malheureusement on n'a qu'une heure. En outre, les ulama sont unanimes pour l'interdiction de profiter des graisses de la bête morte, du porc et des graisses impures qu'utilisent l'humain dans sa nourriture et pour soindre le porc, ses maquillages et ses parfums sont alors interdits, comme le sont le fait de manger la bête morte et le fait de soindre par des substances impures. Il est aussi interdit de vendre les maquillages qui nuisent au visage en lui provoquant des difformités ou des taches noires, ou provoquent de différentes maladies dermiques dans tout le corps. Étant donné que les éléments composants sont faits à base de produits chimiques qui nuisent à la peau ou aux yeux, et certes, la nuisance doit être écartée de l'utilisateur lui-même et de la personne à qui on vend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. Du reste, si des produits de beauté ne contiennent pas de substances illicites, impures ou nuisibles, il serait en principe permis à la femme de les utiliser tant qu'elle n'exhibe sa beauté qu'aux personnes devant lesquelles Allah azzawajal lui a permis de le faire. Ainsi, il lui est permis pour la même dessein de se parfumer par le parfum qu'elle désire, tant qu'il ne contient pas d'alcool enivrant, comme cela a été cité. Néanmoins, il est absolument interdit de se parfumer lorsqu'elle est en état de sacralisation pour faire le hajj, pèlerinage, omara, petit pèlerinage. Dit à propos de celui qui est en état de sacralisation et ne portez pas de vêtements parfumés par le safran ou el-wirs. Naham. Donc voilà, la fatwa elle n'est pas terminée, elle est encore longue. Donc si vous voulez toutes ces preuves, on les mettra, on vous les enverra, inshallah ta'ala. Mais en tout cas, ça répond à notre étudiante dans le sens où les produits, c'est la base de ce qui est illicite et de ce qui ne l'est pas. Ce qui est les produits qui contiennent de l'illicite sont illicites. Les produits qui ne contiennent pas d'illicite, la plupart du temps, sont licites. C'est une règle. Naham. Question suivante. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salati wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il convient de rappeler la règle générale suivante, le statut par défaut et le statut licite. Ce qui veut dire que l'origine dans toute chose est la licéité, sauf s'il y a un texte du Coran et de la Sunna authentique qui dit le contraire, ou s'il y a un préjudice sur cette chose. Cette règle tire son origine de certains versets. Voilà, c'était. Les produits cosmétiques tels que les crèmes ou autres n'échappent pas à cette règle et de ce fait, il est licite de les utiliser, sauf s'il s'avère qu'elles contiennent une souillure quelconque ou qu'il se confirme qu'ils sont nocifs. Car le prophète, alayhissalam, a dit: ne te fais pas de tort et ne fais pas de tort à autrui, rapporté par Ahmed. Donc voilà, c'était pour terminer, j'avais oublié ça. On avait un étudiant également qui nous avait posé la question sur le madhhab al-Zahiriya. Ça, on y a répondu dans le cours la dernière fois. On a répondu. La fatwa de Cheikh Al-Uthaymin Rahimahullah. Donc, ça, on a répondu. On avait une étudiante à qui on avait dit qu'on lui donnerait une liste de différents groupes, de différentes sectes. Alors, on a trouvé rapidement, on vous le mettra sur les groupes si vous voulez. On a trouvé quelque chose ici. Nous, on n'a pas spécialement eu le temps de faire une liste, mais on va faire un petit ici rapidement, un petit exposé. Par exemple, ici, en premier lieu, on a les haddadiyya. Donc, la haddadiyya, c'est l'exagération, le mensonge et le rejet de la vérité. Tels sont les attributs de la Haddadiyya. Les néo-Khawarij, on les appelle les néo-Khawarij parce qu'ils ont des caractéristiques de Khawarij, les Haddadi. Qu'Allah ne fasse pas aboutir leurs efforts des Haddadi. En fait, on vous enverra. C'est de Ilm Shar'i. On a trouvé ça. Vous avez la Haddadiyya. Vous avez les Khawarij, vous avez les Ikhwan Muslimin, les frères musulmans, vous avez les Tablir, vous avez les chiites, vous avez les soufis, et aperçu de quelques autres groupes égarés, et vous avez plein de liens qui vont vous donner leurs caractéristiques. Il y a des vidéos, il y a des. C'est pas mal. C'est pas mal pour un début. Donc, Inch'Allah, comme on vous a dit, ce lien, on va le mettre à votre disposition, Inch'Allah. J'enverrai tout ça dans les groupes. Non, non, mashallah. Taïb. Donc, on a une question suivante. Question suivante. On a un frère qui nous a posé la question Est-ce que la hijra est obligatoire, il est obligatoire pour lui en tant que converti de quitter le pays de mécréance, ou est-ce qu'il peut rester pour faire dawa à sa famille, pour apprendre et devenir étudiant? Nous avons donc posé la question. Nous avons donc posé la question à Cheikh Turki. Voici sa réponse, qui est un grand élève de Cheikh Mokbel, qui est resté une vingtaine d'années à l'institut de Cheikh Mokbel, qui est connu, qui est en Arabie maintenant, parmi les mashaïrs, qui est connu, etc. Taïb. Donc sa réponse, premièrement, le frère, la première chose, c'est qu'il doit avoir une intention vertueuse. C'est la première chose que le cheikh lui conseille, c'est le tawhid. C'est-à-dire, son intention dans le fait de faire da'wah, de rester en France, pour faire da'wah à sa famille et de faire da'wah en général. La première chose, c'est de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il soit sincère à 100%, nous dit le cheikh, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'œuvre pas pour les gens, pour que les gens disent un tel, comme quoi il est un talibul ilm, c'est un étudiant, regarde, il appelle à la voix d'Allah, etc. Non. Il doit travailler son intention, réformer son intention, pour avoir, acquérir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour acquérir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il doit fournir également tous les efforts pour l'étude de la science. Mais vraiment, le cheikh a insisté, il doit fournir d'énormes efforts dans l'étude de la science, dans la aqida, le dogme, la croyance, dans le tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il puisse bénéficier de l'amour d'Allah et vice-versa. Également, il doit adorer Allah pour apprendre sa religion, hein, pour adorer Allah avec clairvoyance. Ala basira. Après cela, une fois qu'il a atteint ce fondement, cette base, alors les gens, il aura un impact sur les gens à partir du moment où il sera sincère envers Allah, ou Ta'ala, culte exclusif envers Allah, et qu'il fait les efforts dans la recherche de la science, il aura un impact sur les gens. Il pourra appeler les gens, mais il devra le faire par les actions et la parole. Il devra appeler les gens avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, et il devra être raffermi sur sa religion. Fort dans la religion. Il devra être sincère, véridique dans ses paroles et dans ses œuvres. C'est ça la chose la plus importante dans un premier temps. Ma fi ashkal, Cheikh Ziyad, ma fi ashkal. Rabbi hafzik, nas'Allah yassir lak al-umur. وقالوا بأن هذا طالب العلم أن هذا الشيخ donc il ne doit pas viser les gens, qu'est-ce que pensent les gens, c'est un talib al-ilm, c'est un cheikh, etc. Mais le cheikh nous dit, nous recherchons l'agrément d'Allah, nous visons le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons le paradis, barakallahu fik, nous dit le cheikh. Ensuite, le cheikh, dans sa réponse, nous dit, par rapport au frère, il peut rester dans le pays de mécréance, mais avec des conditions, comme l'ont mentionné les ulama, les gens de science, comme Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz. Il peut rester dans le pays de mes créances pour appeler sa famille à la religion et ne pas émigrer. Mais attention, il y a des conditions. Les conditions, c'est qu'il ne soit pas tenté, troublé, tenté dans sa religion. Alors le cheikh nous dit que ce soit les femmes, l'argent ou autre, qui ne soit pas déstabilisé et tenté, mettre en danger dans sa religion, attiré par qu'il tombe dans la désobéissance et les péchés. Et que sa foi, du fait qu'il reste en France, elle va chuter constamment. Alors là, il ne devra pas rester. S'il met sa religion en danger, il ne devra pas rester, il devra émigrer. Et à ce moment-là, le cheikh nous dit qu'il y a d'autres, il y a beaucoup aujourd'hui de façons de faire darwa. Énormément, nous dit le cheikh, par Internet, envoyer des lettres, etc. Donc si sa religion est en danger, il part, mais à distance, il pourra toujours leur faire darwa. Sinon, s'il ne craint pas pour sa religion, alors il a le droit de rester. Également, il devra, le cheikh nous dit, le frère devra fournir d'énormes et d'énormes efforts dans la darwa. Il devra se fatiguer dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Il devra se fatiguer d'efforts dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Donc il devra également, le cheikh nous dit, avoir une motivation hors du commun. Une motivation hors du commun. Il devra être vraiment, vraiment motivé. Naam. La chose la plus importante, nous dit le cheikh, c'est qu'il devra faire attention vraiment à lui-même. D'abord à sa propre personne. Avant d'appeler les autres, il devra s'assurer que lui-même n'est pas en danger, comme Allah Ta'ala nous le dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Ô vous qui avez cru, hein, sauvez d'abord votre personne et ensuite votre famille et les autres. Le cheikh, pour terminer, nous dit, il doit commencer d'abord par lui-même, en apprenant les sciences religieuses. Donc ça, c'était pour Cheikh Abdallah, ta réponse. Dans le cours du comportement, il y a un comportement que nous devons savoir. Question suivante. Dans le cours du comportement, il y a un comportement que nous devons avoir. C'est rester impassible, mais quand on a un haut potentiel émotionnel, comment arriver à gérer ses émotions? Enfin, la méthode qui nous permet de se contenir au fil du temps, surtout devant des enfants adolescents difficiles, et garder un bon comportement devant eux et ne pas montrer ses émotions. Taïb, réponse. Essayez au maximum de convaincre. Il faut essayer au maximum de convaincre son subconscient, donc soi-même, de se convaincre que ce ne sont que des sentiments gérables. Avec le temps, il suffit d'entraînement. Cela n'est pas impossible. Car les émotions, ce sont des réactions psychologiques qui produisent des réactions physiques. Donc, si une personne se persuade que tout est dans la tête, elle fait un effort, un travail sur son mental, alors les émotions extérieures suivront. Et avec le temps, elle pourra s'améliorer et gérer ses émotions. Les émotions sont des données chimiques, des pensées qui provoquent des réactions. Si vous arrivez à changer ces formules que vous envoyez vous-même à votre esprit, alors tout change. Donc en conclusion, les formules que vous devez envoyer à votre esprit, c'est rien de grave qui nécessite de se mettre en colère, car la colère est nuisible pour la santé, pour le comportement et pour beaucoup d'autres choses. Également, il faut se persuader que ses propres réactions excessives sont inutiles. Ça ne changera rien, les mauvaises réactions émotionnelles, à part faire du mal à soi-même, voire aux autres. Quand nous sommes confrontés à n'importe quelle situation, épreuve, provocation, choses bouleversantes, peur, etc., notre réaction se fera en fonction des données que nous allons envoyer à notre esprit, à notre cœur. Si on envoie des données positives, le résultat sera positif et vice-versa. Donc la personne doit se programmer, s'entraîner jusqu'à réussir. Ce que nous vous communiquons ici, c'est une recette de l'impassibilité. Deuxième question de notre même étudiante. Quand on est converti, le tuteur qui remplace le père pour un mariage, doit-il faire une enquête sur le prétendant comme s'il était le père ou ce n'est pas obligatoire? Et si c'est obligatoire, la femme doit-elle sensibiliser le tuteur qui ne l'aurait pas fait en l'ayant laissé s'unir avec une personne sans avoir enquêté? Et comment le faire pour lui montrer la grande responsabilité qu'il avait devant Allah subhanahu wa ta'ala, car il évite de recommencer avec d'autres sœurs. Alors, concernant le fait d'enquêter sur un prétendant ou une prétendante, la question a été posée au savant. Elle a été posée à Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Cheikh, qu'Allah vous bénisse, quel est votre avis au sujet de faire une enquête sur le prétendant? Réponse. Procéder à une enquête sur un prétendant est une chose plus qu'obligatoire, surtout de nos jours, où il nous arrive de ne même pas pouvoir distinguer le bon du mauvais, vu le nombre important de tromperies, de descriptions mensongères et de faux témoignages. Ça, c'est Cheikh Al-Uthaymeen, hein, vous voyez? De faux témoignages. En ce sens qu'il arrive de rencontrer un prétendant donnant l'impression de quelqu'un de sérieux, d'intègre et de bonne moralité, alors que c'est tout le contraire. Il se peut également que la famille du prétendant lui apporte son soutien dans son rôle, et même qu'un autre témoin, qui n'est même pas de sa famille, vient attester de son bon comportement et de sa droiture. Mais une fois l'acte de mariage conclu, c'est toute une autre image de cet homme à laquelle nous avons droit, que ce soit au sujet de son comportement ou de sa religion. C'est pourquoi je considère qu'il est absolument obligatoire de se renseigner sur le prétendant de façon minutieuse, quitte à mettre 10, 20, 30 jours pour rendre la réponse. Et ce, afin que l'homme agisse en toute clairvoyance. Maintenant, si le prétendant s'avère être quelqu'un d'intéressant et dispose de qualités requises, qu'on lui accorde la main de la fille. À ce titre, il n'est permis à personne de s'opposer à la volonté de cette dernière de se marier avec un homme, quel que soit le motif avancé. On a entendu parler de parents s'opposer carrément au mariage et leur fille, de leur fille avec un homme pieux alors que celle-ci, le souhaitait pour des raisons futiles. Comme par exemple, de pire, le fait de dire, par exemple, il n'est pas de notre village, il n'est pas diplômé, contrairement à notre fille. Ou bien il n'a pas un bon emploi alors qu'il a une situation professionnelle correcte, et d'autres prétextes avancés qui sont vains et sans fondement. Il y a aussi parmi les gens celui qui prive sa fille ou celle qui est placée sous son autorité de se marier rien que pour profiter de son salaire. Donc voilà, pour répondre à l'étudiante, oui. C'est une obligation de faire une enquête et oui, le tuteur doit être sensibilisé sur sa responsabilité. Les savants disent, parmi les rôles du tuteur, c'est de s'assurer de la sécurité et du bien-être concernant de la fille, de la mariée, concernant le futur marié. Donc il a le droit de s'opposer s'il voit qu'il y a quelque chose, c'est son rôle. S'il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. On avait une autre question sur. On avait d'autres questions. Naham. Alors, subhanallah. Naham. Concernant le fait de retarder, empêcher d'avoir des enfants pour différentes causes en utilisant stérilet ou autre, les savants disent. Donc ça, c'est pareil, on a une question à l'Institut concernant le fait de retarder, comment on appelle ça, la procréation, hein, le faire des enfants. Concernant le fait de retarder, empêcher d'avoir des enfants pour différentes causes en utilisant stérilet ou autre, les savants disent. À la base, cela n'est pas permis car le prophète a.s. a demandé à sa communauté de faire beaucoup d'enfants. En revanche, s'il y a une raison confirmée médicalement que la procréation, c'est-à-dire faire des enfants, serait nuisible pour sa santé ou sa maladie, qu'elle l'affaiblirait, alors dans ce cas, cela est permis. Le deuxième point, c'est si on est atteint de sorcellerie et qu'on a peur que la sorcellerie se transporte dans le nouveau-né, que ce soit héréditaire, est-ce que cela peut empêcher d'avoir, est-ce que l'on peut s'empêcher d'avoir des enfants? Réponse. Nous avons trouvé que les savants disent qu'il n'y a aucune affirmation solide pour affirmer que la sorcellerie est héréditaire, qu'elle se transmet du parent à l'enfant. Ce que nous avons trouvé comme fatwa qui se base sur l'avis d'exorcisé confirmé. Il n'y a pas de savants, les savants de Ruqya, Wallahu a'lam, hein, ce qu'on a trouvé nous dans les fatawas, c'est qu'ils disent que, pardon, il n'y a pas de preuve pour dire que la sorcellerie, elle se transmet sur les enfants. Wallahu a'lam. Naam. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour freiner la procréation par peur du bled kouf, Allahu a'lam, il n'y a que l'école hanafite qui approuve cela. Voilà nous ce qu'on a trouvé. On dit Allahu a'lam, est-ce qu'on peut stopper la naissance des bébés, pas faire d'enfants, parce qu'on a peur pour la religion de l'enfant? On a trouvé que l'école hanafite qui dit que qui approuve cela. Si on a peur pour les enfants, alors on peut ne pas faire d'enfants dans le bled kouf. Mais il n'y a que l'école d'Abu Hanifa qui dit ça. Wallahu a'lam. Alors, on a une autre question. J'aurais une question par rapport à ce hadith d'après Jabir ibn Abdillah. Lorsque la nuit débute, retenez vos enfants. À ce moment-là, les shayatines se propagent. Puis lorsqu'un moment de la soirée est passé, alors laissez-les et ferme ta porte et mentionne le nom d'Allah, éteins ta lampe et mentionne le nom d'Allah. Ferme ta gourde et mentionne le nom d'Allah et couvre ton récipient, ne serait-ce qu'en mettant quelque chose dessus en mentionnant le nom d'Allah. J'aimerais savoir à quel moment à peu près pouvons-nous ressortir nos enfants, au moment de la Salat Aïcha ou quand le soleil a presque fini son déclin. Enfin, combien de temps à peu près après la Salat, après le Salat Maghreb? Et pour les portes ou les fenêtres, doit-on les laisser fermées toute la nuit jusqu'à Salat al-Fajr ou juste quelques minutes? Je ne sais pas si ma question est claire. Taïb. Alors, on a une fatwa ici de savants qui nous disent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salati wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'heure, la limite dans le temps où il ne faut pas laisser sortir les enfants. C'est à partir du moment où le soleil se couche. Naham. وليس قبل المغرب بالساعة أو نفس الساعة ويستمر المنع حتى تذهب نعم donc c'est juste au moment de l'aden du Maghreb نعم وهي وقت الذي بين المغرب والعشاء donc on nous dit c'est le moment où c'est interdit de sortir les enfants c'est entre le Maghreb et l'Isha. Selon les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, Bukhari, Muslim. L'imam Nawawi a dit. L'imam Nawawi a dit qu'il fallait ne pas laisser sortir les enfants, justement à ce moment-là. Idha kana junuha al-layl ay awwal 'inda ghurub ash-shams antaha. Donc, il a été également rapporté selon un hadith de Muslim, un hadith authentique également, que la limite, c'est-à-dire le temps dans lequel on ne laisse pas sortir les enfants, on ferme les fenêtres, etc., l'interdiction, c'est au moment où le soleil se couche, Naham, jusqu'au moment de l'Isha. Jusqu'au moment de l'Isha. Il faut que l'Isha, elle soit passée. Alors, pour conclure la fatwa des savants, il nous dit فَعَلَى هَذَا يَبْدَا وَقْتَ الْمَنَعَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ. Donc, quand le soleil, il tombe, hein, ça, c'est le début de l'heure. حَتَّى دُخُلْ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِشَا. Jusqu'à l'entrée de l'heure de l'Isha. En gros, entre le Maghrib et l'Isha, c'est là l'interdiction. Lorsque ce temps est passé, il n'y a pas d'interdit pour faire sortir les enfants. Et l'interdiction de tout ce qui a été interdit, elle tombe. Taïb. Et ça, c'est l'avis de la plupart. Tout ça, c'est l'avis recommandé de la plupart des savants. De la plupart des savants. Naam. Wallahu a'lam. Comme vous le savez, on ne peut pas faire des exposés trop détaillés parce que sinon, regardez, hein, on a pris déjà 50 minutes. Hein. J'ai une question qui n'est pas privée, que vous pouvez poster au cours de questions-réponses du vendredi. Comment faire gagner des hasanat al-jari, c'est-à-dire des aumônes qui perdurent après la mort à une personne sans qu'il participe financièrement? Alors, une personne peut participer à une aumône. En propageant, en informant les gens, en faisant participer des gens, c'est comme si lui il avait participé. Naham. Par exemple, sur un ouvrage sur le tawhid, par exemple, on peut participer également en le propageant. En le propageant, là on a participé. Inch'Allah ta'ala, ça va rester. En aidant à sa fabrication, à sa constitution, etc., etc. Le prophète, aïssat wassalam, a dit, celui qui indique un bien, il aura les mêmes hasanettes de celui qui, la même récompense que celui qui l'a fait. Wa iyyak, wa iyyakum naham. Salam alaikum. Est-ce qu'on a le droit de faire une prière de consultation pour le vaccin du Covid? Car beaucoup me disent, c'est complotiste et qu'il ne faut pas le faire. Et on est un peu perdu. Alors concernant le vaccin du Covid, nous on va vous donner notre avis personnel après enquête. C'est un avis personnel, ça veut dire vous nous posez la question à nous on vous répond notre avis. Taïb. Bien entendu, on va y joindre l'avis légiféré. Naram, comme vous l'avez vu, apparemment, les savants ne sont pas contre le vaccin. Pourquoi? Parce que le vaccin, à la base, selon la règle de jurisprudence dans le fiqh, c'est permis jusqu'à ce qu'on ait une preuve que ce soit interdit. Taïb, pardon. Le problème qui se pose, c'est que les savants n'ont pas forcément, ils se basent sur cette règle, ils n'ont pas forcément eu à disposition, wallahu a'lam, hein. Wallahu a'lam, c'est notre avis à nous, la formule. Celui qui va enquêter chez les professeurs, regarder partout, il va fouiner pour déjà avoir un aperçu de la composition, il se rendra compte que la composition, elle n'est pas, par rapport à ce que certains professeurs ont dit de cette composition, elle n'est pas légiférée. Elle n'est pas légiférée. D'ailleurs, vous avez Cheikh El-Ferkous, précédemment, comme vous l'avez entendu, il dit que si du maquillage ou autre, dedans, il y est contenu de l'illicite, fœtus, porc, etc., ça devient illicite. Et il a été mentionné par certains professeurs qu'il y avait du fœtus humain dans le... Wallahu a'lam, dans le remède, wallahu a'lam. Ça, c'est pas très sûr. Pardon. Mais ce qui est plus sûr, dans le vaccin, par contre, ça, c'est sûr, C'est une professeure qui a fait un livre sur ça, comme quoi dans le vaccin, il y avait, comment on appelle ça? Manipulation de l'ADN humain. Et on sait que la manipulation de l'ADN humain, c'est à titre expérimental. Ça peut être très grave, ça peut donner des choses, c'est à titre expérimental. Également, si vous regardez la plupart des professeurs, même alors ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui sont contre le vaccin, vous constaterez que tout le monde parle, mais personne n'a fait le vaccin chez eux. Même celui qui a fabriqué le vaccin, il a dit, moi j'attends de voir. Je ne le fais pas le. Donc vous voyez, on est des cobayes. Ça, c'est une première approche. Naham. La deuxième approche, c'est que tout ce qui tourne autour du vaccin, du virus, le virus a été confirmé et approuvé comme quoi il a été fait en laboratoire. Le virus, ça a été prouvé. C'est prouvé, hein. C'est officiel. Ça a été prouvé. Que le virus, il a été fait en laboratoire. Le virus du Covid a été fait en laboratoire, manipulé. C'est pas des épiciers, c'est pas des boulangers qui nous ont dit ça, ce sont des grands docteurs, professeurs. Même le professeur qui dit toujours la vérité, Raoul, je crois, il a été menacé de mort, donc il s'est un petit peu calmé. Mais lui-même, il a dit, étant donné que le virus a muté. Étant donné que le virus, il a muté, donc le vaccin ne sert plus à rien. Il est inefficace. Naham. Wallahu a'lam. Ça, c'est un. Faut pas faire le mouton. Faut pas faire le mouton, faut attendre. Ça, c'est un premier. Première approche. Premier exposé. Deuxième exposé, complotiste. Le terme complotiste, c'est comme islamiste. On invente des termes quand ça nous arrange. Alors que le terme complotiste, en vérité, ça veut dire quoi? En vérité, ça veut dire quoi? Complotiste, ça veut dire quoi chez les gens doués d'intelligence et les gens doués de raison? Complotiste, chez les gens doués d'intelligence, ça veut dire précautionniste. Mais eux, pardon, ils ont voulu changer ce merna en iste pour faire peur aux gens. Il y a même des professeurs, ils ont peu, dès qu'ils parlent, ils disent attention, hein, mais ça ne veut pas dire que je suis complotiste. Hein. Wallahul musta'an. C'est comme islamiste, intégriste, terroriste, tout ça, ça les arrange alors que c'est eux les plus grands intégristes et les plus grands terroristes et les plus grands impérialistes. Les kuffars. Donc celui qui se méfie et qui a une croyance très forte, un wallah wal bara très fort, il déteste les kuffars, il se méfie surtout nous en France. On sait que ce sont les Français qui ont fait le virus. Faites des recherches et vous verrez, ce sont les Français qui ont fait le virus. Donc, pas de confiance. Pas de confiance. Ils vont nous mettre la pression jusqu'à ce. Ils vont serrer l'étau jusqu'à ce que tout le monde ait fait le virus. Wallahu a'lam. Donc, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas le faire. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum, vaccin, la personne qui meurt, c'est. Donc, Inch'Allah ta'ala, on a encore des. Il y avait encore des questions. Malheureusement, on va répondre à quelques-unes. Il reste 2-3 minutes, allez. Assalamu alaikum, Ourti, j'ai une question. Puis-je être suivi par un médecin homme musulman ou non? À savoir qu'il était mon médecin traitant depuis toute petite. Il y a autre docteur femme musulmane. Écoutez. Il n'est pas permis à la femme d'être suivie par un médecin homme. Ça, c'est la base. À la base, il n'est pas permis d'être suivie à la femme par un médecin, par un homme. Même si cet homme, il connaît son dossier de A à Z depuis qu'elle est petite, le mieux, c'est d'aller vers une femme, de faire transférer son dossier. La médecin femme, elle va prendre connaissance de son dossier. Walhamdulillah. L'homme médecin, c'est que en cas de darora, cas de force majeure. Vous savez ce que c'est un force majeure? C'est si ta vie elle est en danger. Le cas de force majeure, c'est pas comme les gens, la plupart ils jouent avec cette règle. Le cas de force majeure, oh j'ai pas trouvé. Non. Non, le cas de force majeure, c'est voilà, tu vas avoir une césarienne par exemple, et c'est dans l'aura, il n'y a personne d'autre. Tu vas mourir sinon. Alors le médecin homme, il vient. On ramène un médecin homme, ça c'est permis. Voilà, sinon à la base, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Dans ma famille, lors des repas, hommes et femmes ne sont pas séparés habituellement, donc je n'y vais plus. Mon frère compte nous inviter chez lui et peut-être qu'il séparera seulement, ce ne sera pas dans la même pièce, juste dans la même table. À savoir que pour la plupart des femmes ne sont pas voilées, il y en aura deux. J'aimerais savoir s'il est possible d'assister. Wafikum barakallah, non. Non, il n'est pas permis. C'est pas permis. Si par exemple, ça aurait été votre beau-frère, il vous invite, même vous en tant que belle-sœur, hein. Il vous invite à une table à manger, c'est la famille, vous êtes couverte. Là, il y a des savants qui disent que c'est permis. Mais faut pas rigoler, crier, waouh! Non, il faut pas faire ça. Si vous avez un bon comportement, vous ne rigolez pas, vous parlez pas avec complaisance, c'est permis. Il y a des savants qui disent c'est permis. Mais attention, faut que son mari il soit là. Si votre mari il est là, vous avez un mahram avec vous, mahram avec vous. Les beaux-frères, ils sont là, vous êtes en train de manger, vous avez le hijab, vous tapez pas la discute et vous rigolez pas. Il y a des savants qui disent que c'est permis. Mais là, comme vous nous avez mentionné, il y aura des femmes qui n'ont pas le hijab, etc. Elles ont pas, s'il n'y a pas leur maharim, mahram, non, il faut pas. C'est pas permis. Wallahu a'lam. Alors, on a une autre et une dernière question. J'ai quelques questions pour vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne convertie à l'islam authentique qui vient d'avoir un enfant peut organiser un repas avec sa famille en sachant que la famille risque d'apporter de l'alcool et mettre de la musique? Si ce n'est pas possible d'organiser des repas, que conseillez-vous afin que la personne convertie puisse nouer les liens de parenté avec ses proches non musulmans? Alors, vous essayez d'avoir. Déjà, c'est pas permis, hein. Alcool, musique, faut pas y aller. Non, c'est pas permis. Vous gardez les liens de parenté avec eux. Vous essayez d'avoir un très très bon comportement et garder des bons liens, mais pas dans ce qui est interdit, que dans ce qui est permis. Vous leur faites comprendre, vous leur expliquez, voilà, moi je suis dans la religion, on évite ces choses-là, et vous les invitez. Vous les invitez, vous essayez de garder les liens. Mais sachez qu'il n'y a pas, il y a une règle du prophète, alayhi salam, qui a dit, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. C'est à eux de se plier, ce n'est pas à vous. Wallahu a'lam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on s'excuse si on n'aura pas pu traiter toutes les questions. Continuez à envoyer vos questions. Si vous voulez les fatwas des savants, tout ce qu'on a mentionné, on vous les enverra, Inch'Allah. Assalamu alaikum, professeur. Barakallahu fikum. Wa fikum, barakallah. Hayyakum Allah. Amin. On essayera de faire le plus souvent possible des questions comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que on n'y répond pas tout de suite. À partir du moment où on nous transmet une réponse, on la met tout de suite dans un groupe. Je la mets tout de suite dans un groupe que j'ai, groupe personnel, hein, Naham. Et je les traite petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas. Barakallahu fiikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa fiikum barakallahu wa alaykum assalam. Inch'Allah, peut-être que le prochain vendredi, là, comme j'ai une chose importante à faire, la prochaine fois, le vendredi, on pourra faire 2 heures. On pourra faire 2 heures. Là, je ne pouvais pas faire 2 heures, je ne peux pas. Mais dans le prochain question-réponse, Inch'Allah, on fera 2 heures. On fera les 2 heures. Peut-être même si on a passé toutes les questions-réponses de la semaine et il restera du temps, vous pourrez même poser des questions en direct. Si on a la réponse, on répondra, Inch'Allah, ta'ala. Qu'Allah vous facilite, vous donne la science utile, guérisse tous les musulmans. Et walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Wayak, cher Ziad, wayak, wayak.